Guillaume Bagnolini est docteur en philosophie des sciences, en éthique et en philosophie de l'environnement. Il est chargé d'enseignement à l'Université de Montpellier en histoire et en écologie et chercheur associé au laboratoire interdisciplinaire Sciences, Innovation, Société à l'Université Gustave Eiffel. Voilà, je vous laisse la parole.
Je vais vous présenter, donc, comme ça a été dit avant Terfac, donc, ce projet de science citoyenne avec une question, enfin, une grande question: quelle légitimité pour un projet étudiant d'inventaire de la biodiversité? En sachant que c'est un projet de recherche, donc avec le LISIS, une association étudiante, le CNOM, un réseau d'associations étudiantes, RES, et un groupement de chercheurs entre écologie et philosophie et biodiversité à Toulouse qui s'appelle Biodiversity. Alors, je ne sais pas effectivement si ça a déjà été abordé dans la journée, puisque je n'ai pas pu suivre les échanges, mais je comptais faire un petit historique des sciences citoyennes, mais vraiment très rapide pour aborder directement le sujet, donc le projet Inventaire Fac. La dichotomie entre, d'un côté, les amateurs et les scientifiques, comme de nombreux auteurs ont pu le montrer, et notamment Bernadette Binsod-Vincent, elle s'est historiquement construite avec la constitution, donc, des académies de sciences, mais également avec la professionnalisation de la recherche. Et donc, il y a un retour de la participation citoyenne des amateurs dans les sciences naturalistes, notamment à partir de 1900 aux États-Unis, avec notamment, mais pas que, le Christmas Bird Count, qui est un comptage des oiseaux de Noël, donc à la période de Noël, pour un peu en réaction face à des périodes de chasse qui étaient organisées sur ces mêmes oiseaux. Et donc est organisé ce projet par la toute naissante National Audubon Society. Et donc il y a quelques ornithologues. Alors, au tout début, il y a 27 participants un peu répartis dans différentes villes aux États-Unis. Et puis petit à petit, maintenant, il y a plusieurs milliers de participants qui participent donc au Christmas Bird Count et à ce comptage des oiseaux de Noël, qui donne lieu à des publications sur les dynamiques de population des oiseaux. Et alors, en France, apparaît donc les sciences citoyennes, notamment avec un programme de recherche du Muséum d'histoire naturelle, le suivi temporel des oiseaux communs, à partir des années 80, 1980, précisément 1989. 1989, c'est aussi la constitution de Viginature, qui regroupe de très nombreux programmes de sciences citoyennes, dont Spipol, par exemple, sur les insectes pollinisateurs, dont Bird Lab, qui est du comptage d'oiseaux sur notamment des mangeoires, etc., etc. Et sur ce suivi temporel des oiseaux communs, ça a donné lieu effectivement à la participation, alors, d'amateurs éclairés, très souvent des ornithologues qui sont de loisirs, avec de loisirs sérieux. Et donc avec des publications, notamment de la réutilisation des données du programme Stock dans de très nombreuses publications sur les dynamiques de population d'oiseaux, et avec donc des résultats sur la disparition, en tout cas, d'individus à l'échelle des populations, sur les oiseaux, par exemple, disent spécialistes, et par contre de l'augmentation sur certaines autres espèces d'oiseaux, dont la grande catégorie des oiseaux généralistes. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'étude effectivement des effets du changement climatique, de la fragmentation des habitats, etc., etc., sur ces populations d'oiseaux. Viginature, comme j'en parlais, donc ça apparaît à partir de 1989, mais vraiment la constitution cet ensemble de programmes de sciences citoyennes va apparaître bien après avec la constitution de très nombreux autres programmes. Je ne vais pas tous les citer, bien entendu, il y en a de très nombreux. Alors, je pense que ça a évolué depuis la publication de ce rapport sur le dispositif Viginature, mais en gros, il y a 14 000 participants, entre guillemets, grand public, des élèves, puisqu'il y a des programmes scolaires, des naturalistes également, qui font partie d'associations naturalistes, des agriculteurs, des gestionnaires d'espaces verts, etc., etc. Donc, parmi les sciences citoyennes, c'est Viginature, sans doute, un des grands programmes. Un des grands réseaux de programmes de sciences citoyennes en France. Là, je parle beaucoup des sciences naturalistes puisque c'est un peu l'objectif du colloque et de la journée, et puis également du projet Inventaire Fac. Mais effectivement, dans les sciences citoyennes, il n'y a pas que du tout les sciences naturalistes. On a des très beaux exemples aussi avec Foldit, par exemple, donc un logiciel que l'on installe sur son PC et qui permet de faire de l'analyse d'architecture des protéines, avec des publications qui ont été faites sur les protéines du VIH, par exemple, et qui concernent donc des milliers d'utilisateurs, avec donc des tutoriels pour apprendre à analyser la composition d'une protéine. Et ce n'est pas du tout juste de l'utilisation de puissance d'ordinateur, ce qui est fait d'ailleurs dans beaucoup de programmes d'astronomie, mais là, vraiment, concrètement, c'est l'utilisation. C'est de l'intelligence distribuée, si on pouvait dire, hein, puisque c'est tout le monde qui résout ce puzzle et effectivement, par le biais du nombre d'utilisateurs, au bout d'un moment, on arrive à des résultats qui peuvent être très intéressants. On a des programmes également de sciences citoyennes qui sont des très jolis exemples, pour le coup, de collaboration à différents niveaux, et pas que dans la collecte de données ou dans l'analyse de résultats, mais également, là il y a l'exemple de Fos-sur-Mer avec donc un programme de sciences citoyennes sur la pollution atmosphérique, où on avait donc de l'analyse de lichen et de la détermination donc de lichen sur ce type de dispositif. Le rapport Houllier en 2016, il fait une catégorisation des sciences citoyennes avec différents niveaux. Alors, il s'inspire bien sûr de publications sur les sciences citoyennes, notamment les échelles d'Aclay et de Pember, mais il classe donc en termes de niveau de participation, ça c'est la première typologie, avec le niveau 1, le crowdsourcing, qui correspondrait par exemple à de très nombreux projets de sciences citoyennes dans les sciences naturalistes, où les citoyens servent véritablement de capteurs de données, de collecteurs, avec des niveaux 2 où c'est une intelligence distribuée, on pourrait dire que Foldit se rapproche de ce niveau 2 avec les citoyens donc, qui contribuent à l'interprétation des données. Avec le niveau 3 des sciences participatives où les citoyens contribuent à la définition du problème et à la collecte de données. Et le niveau 4, la collaboration complète. Et là, on pourrait prendre l'exemple du projet Lichen à Fos-sur-Mer, où la collaboration est donc complète avec les différentes phases de la définition des problèmes à la collecte des données, à l'analyse et même à la présentation derrière des résultats. Une autre typologie que le rapport Houllier présente est une typologie donc en trois parties. D'un côté, les sciences citoyennes, qui sont la contribution des citoyens amateurs à la collecte et à l'analyse de données. Avec donc une très longue tradition, histoire de la participation des amateurs à la production des sciences naturalistes. J'imagine que vous en avez parlé durant cette journée. Avec donc surtout les sciences naturalistes qui sont incarnées dans les sciences dites citoyennes, mais avec d'autres types, effectivement, comme la community basée de recherche, où c'est de la collaboration entre chercheurs et groupes concernés. C'est par exemple en France l'Association française contre les myopathies, que de très nombreux auteurs ont étudié, avec aussi des traditions longues et des histoires, notamment aux États-Unis en santé publique, avec l'objectif très souvent dans les community basées de recherche de l'amélioration des conditions d'existence. à la différence, par exemple, des sciences citoyennes, sciences naturalistes, où il y a plus le côté curiosité et également engagement militant un peu pour la protection de la biodiversité, pour l'environnement, etc. Et enfin, les recherches participatives, où là, vous avez des collaborations entre chercheurs, groupes de citoyens ou de professionnels, dans l'objectif, par exemple, alors c'est le réseau Semences Paysannes, pour prendre un exemple, de la sélection participative des semences, typiquement, donc avec l'idée de relever des défis sociétaux, scientifiques, importants, et donc vraiment cette idée d'innovation et de transformation sociale. Je vais faire un petit historique pour vous présenter, pour amener donc sur dans quel contexte effectivement se développe le projet Inventaire FAC, qui se situe plutôt dans les sciences citoyennes, sciences naturalistes, avec la dimension de faire participer donc les membres du projet, de la définition du problème jusqu'à la collecte de données, jusqu'à l'amélioration du protocole. Et pas forcément sur les autres étapes d'analyse et de publication des résultats. C'est le dispositif Inventaire FAC, ce programme de sciences citoyennes. Il est né en 2011 à l'université de Montpellier. C'est des membres de l'association GNOME, donc le groupe naturaliste de l'université de Montpellier, donc essentiellement des étudiants qui au tout début se réunissaient donc avec quelques collègues simplement pour faire un inventaire naturaliste de la faculté des sciences. Puis petit à petit, le projet a grossi, est devenu un projet national avec la reprise et la réappropriation par le réseau des étudiants français pour le développement durable, avec l'intégration d'enseignants-chercheurs et également de la conférence des présidents d'université, de la conférence des grandes écoles dans le dispositif Inventaire FAC. Et donc maintenant, on a un programme de sciences citoyennes à l'échelle nationale sur plusieurs campus, où en fait, n'importe quelle personne peut participer sur les campus, alors soit seul, soit en groupe. Seul parce qu'il y a une application et un site internet qui permettent de collecter les données. La collecte de données se fait par un formulaire qui permet donc l'inscription de données avec notamment des photographies, mais pas obligatoirement, mais également en groupe. Et l'essentiel des participations d'ailleurs se fait en groupe lors de sorties naturalistes, comme vous pouvez voir sur la slide. Lors de sorties naturalistes, où effectivement on a donc des enseignants-chercheurs avec des étudiants qui participent à ces sorties, et c'est donc des inventaires de la faune et de la flore avec des taxons particuliers qui sont visés durant les sorties. Les données sont centralisées sur une plateforme qui s'appelle Observado, qui est une plateforme qui collecte des données naturalistes à l'échelle internationale. Et donc, le programme Inventaire FAC se situe donc dans un projet particulier de l'interface Observatoire. De ce dispositif Inventaire FAC, il y a eu plusieurs publications, alors des publications plutôt de vulgarisation scientifique, pour le coup, même s'il y a eu des données qui ont été réutilisées dans certains programmes de recherche par des enseignants-chercheurs. Mais en gros, les publications principales pour le dispositif Inventaire FAC, ce sont donc le petit guide naturaliste de la faculté de sciences et la biodiversité sur mon campus, qui sont deux guides en fait. Le premier est plutôt un guide naturaliste sur la biodiversité sur le campus de l'université de Montpellier, sur un des campus de l'université de Montpellier. Et le second est plus un livret de bonnes pratiques autour de la biodiversité sur mon campus. Via des observations qui ont eu lieu durant le dispositif Inventaire FAC. À la fin, donc, sur le site internet Inventaire FAC, on peut retrouver donc des statistiques liées donc à des collectes d'observations sur différents types de taxons. Il y a maintenant, et ce n'est pas forcément si énorme que ça, comparativement à d'autres dispositifs de sciences citoyennes dans les sciences naturalistes. Il y a eu une collecte de 5640 observations pour 657 espèces, avec, vous le voyez, une large majorité d'oiseaux qui a été observée et de plantes également, de par effectivement le fait que voilà, c'est des taxons assez facilement visibles sur les campus. Toutes ces données ont été collectées sur les campus dans cet établissement d'enseignement supérieur, autant sur les universités que sur les grandes écoles. Sur les participants, on observe une participation qui n'est encore une fois pas si énorme que ça pour un dispositif qui date depuis 2011. On a 708 participants en tout au projet, avec une large majorité d'étudiants, donc avec des enseignants-chercheurs, des retraités, également des actifs, dont des personnels des universités ou des grandes écoles. Et ce qu'on observe, c'est que les participants sont souvent diplômés, soit en cours de formation, puisqu'ils sont étudiants au sein des campus, soit diplômés avec très souvent des bacs plus 3. Et ils présentent très souvent un engagement associatif assez fort, mais ça, ce n'est pas tellement original dans les études sur les sciences citoyennes, puisqu'on s'aperçoit que c'est très souvent le cas dans les projets de sciences citoyennes autour des sciences naturalistes. Les motivations à participer sont difficiles à isoler, bien entendu, mais de par les questionnaires, il y a eu des questionnaires qui ont été distribués, et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a très souvent des motivations scientifiques pour participer à la science, des motivations militantes de protection de la biodiversité et des motivations également, et ça c'est spécifique au projet Inventaire FAC, je pense, et à d'autres dispositifs qui sont vraiment des dispositifs pour des professionnels ou pour le monde étudiant, c'est le côté formation complémentaire aux cours qui sont dispensés. Et le côté aussi loisir sérieux, parce que pour certains participants, c'est avant tout un loisir, qu'ils font ça en plus, de manière totalement bénévole, mais c'est un loisir effectivement sérieux, on pourrait dire. Donc les deux problématiques dont je vais parler, c'est comment se construisent les savoirs naturalistes dans le cadre de cet observatoire, et quelle légitimité auprès des institutions des savoirs produits. Rapidement, la méthodologie que l'on a appliquée. Donc, on s'est contenté d'analyser le campus Triolet de l'Université de Montpellier, donc le dispositif d'observatoire de la biodiversité sur ce campus-là, avec une observation participante qui a été grandement raccourcie à cause de la crise sanitaire, puisqu'on devait faire plus de 6 mois d'observation, et puis finalement, ça a été raccourci à 3 mois. Et là, le projet Inventaire FAC n'a pas redémarré, donc ça a été un peu compliqué. Et par contre, on a réussi à faire des entretiens semi-directifs avec des 20 participants qui ont été interrogés, 5 représentants d'établissements d'enseignement supérieur. Toutes les données n'ont pas encore été analysées, et c'est pour ça que je mets en cours d'élaboration. L'objectif était aussi de faire des entretiens semi-directifs avant, pendant et après la participation. Pour le moment, on a des entretiens donc avant et pendant. Il nous manque le après la participation et on espère qu'on les aura très bientôt. Concernant la problématique sur la construction des savoirs naturalistes, cette construction des savoirs se fait bien sûr entre différents types d'acteurs, même s'il y a une large majorité d'étudiants. Lors des sorties naturalistes, notamment, il y a toujours des enseignants-chercheurs. Les étudiants, les retraités ou les actifs sont plutôt des collecteurs de données, mais ils discutent également la confection de projets, la publication des résultats, notamment quand il y a des résultats qui sont réutilisés. Et également, j'en reparlerai, mais sur la réflexion sur les aménagements au niveau des espaces verts au sein des établissements d'enseignement supérieur. Les enseignants-chercheurs sont souvent les validateurs des données et des protocoles, mais également des collecteurs de données, puisqu'ils collectent les données soit seuls sur les campus, soit effectivement lors des sorties avec les étudiants. Ce que l'on s'aperçoit, c'est que pour beaucoup d'acteurs, pour beaucoup de participants, il y a, selon eux, une progression au niveau des compétences de détermination de la faune et de la flore, puisque pour beaucoup, ils étaient sensibilisés sur ces questions. Souvent, c'est des étudiants qui viennent d'écologie, donc ils ont des cours, mais ils sont en L1 ou en L2, et pour la plupart, et donc progressent en termes de compétences de détermination taxonomique sur la faune et la flore. Il y a de la création de savoir sur la présence de certaines espèces et derrière la validation par des spécialistes, avec notamment, je vous prends juste deux exemples, mais l'épervier qui a été observé à la faculté des sciences de l'université de Montpellier et qui a été des données qui ont enrichi des bases de naturalistes, effectivement, qui n'avaient pas été observées par des naturalistes professionnels sur le secteur de Montpellier. Il y a le triton palmé qui avait été observé à Toulouse, notamment lors de sorties naturalistes sur le campus. Donc, c'était une donnée très intéressante. Donc, c'est vraiment de la création de savoir sur la présence de ces espèces sur les campus. Bon, il y a de nombreuses limites sur la construction de ces savoirs-là, notamment le retour de très nombreux participants, c'est que les protocoles sont complexes pour certains taxons. Je vous ai mis quelques taxons, enfin quelques exemples, effectivement, de représentants de taxons qui sont complexes. Je pense aux poacées, les graminées typiquement, aux champignons, aux lichens, à certains taxons chez les insectes, par exemple. Et donc, effectivement, il y a également un manque d'investissement sur certains campus, avec des campus qui ont participé au tout début de l'inventaire et puis ont abandonné au fur et à mesure des années de participation. Lors de la collecte des données, par la suite, il y a la publication d'une carte qui représente les données dans l'espace. Et c'est une construction véritablement collective, et c'est ce qu'on s'est aperçu dans la construction de ces cartes-là, c'est que effectivement les données étaient donc collectées par les participants et puis ensuite mises sur le terrain, mais les participants s'entendaient sur la manière de représenter. Cette manière de représenter sur le campus était en jeu de négociation entre les différents participants, suivant les pictogrammes qui étaient utilisés, les formes qui étaient utilisées, suivant s'il fallait représenter ou non certaines espèces qui étaient jugées sensibles, et parce que la carte était après mise à disposition du grand public et pas que des participants. Donc, c'était véritablement une construction collective avec de nombreuses négociations, des désaccords et des fois des accords, et qui amène effectivement à la publication de ces résultats par la suite. J'ai pris l'exemple de la carte pour la représentation dans l'espace, mais également on pourrait parler des statistiques qui des fois font l'objet de controverses. Bien entendu qu'il n'y a pas que des savoirs naturalistes qui sont produits, et ça on peut l'observer également dans d'autres programmes de sciences citoyennes. Benjamin, un participant au programme InventaireFac, disait « Je crois qu'il faut plus d'espace pour la nature. Cette orchidée est pour moi un peu le symbole de la nature qui s'en fout, quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut protéger ces espaces et ces espèces, pour sauvegarder, un gros mot, la liberté. » Et je m'en suis vraiment rendu compte durant ces sorties, donc avec deux profs de la faculté des sciences de Montpellier, Benoît Nabols et Errol Vella. Et alors là, ce que l'on voit à travers le dispositif InventaireFac, c'est que cette biodiversité qui est ordinaire, mais je dirais même plus qu'ordinaire, puisqu'elle est invisible pour beaucoup de participants et même des étudiants en écologie, devient tout d'un coup un objet de préoccupation et nécessite pour certains participants le fait de penser à des aménagements. Et c'est là où on peut rapprocher, selon les mots d'Isabelle Arpin, d'une éducation à de l'attention, puisque dans ces dispositifs et dans ce dispositif-là, InventaireFac, on voit que c'est l'observation et le fait d'observer sur le terrain et d'avoir cette attention-là qui n'est pas que lors des sorties, mais que l'on développe au cours des sorties et après qui devient un état d'esprit que l'on a lorsqu'on vogue dans le campus, lorsqu'on se promène dans le campus, est très intéressant et amène donc à une véritable sensibilité environnementale qui était déjà présente, mais qui amène à cet état d'esprit d'observation et d'attention que les participants développent. Alors, bien entendu que l'étude a été faite sur très peu de temps à cause, et notamment l'observation participante, et ça demanderait d'avoir le après, justement, qui est très intéressant, le après participation. Lors de la validation et détermination des espèces, et notamment sur le terrain, Il y a deux types de formes d'expertise, on pourrait dire. Il y a l'autorité externe et l'opinion d'experts naturalistes, puisque les experts naturalistes et les enseignants-chercheurs sont présents et souvent valident directement ou déterminent directement les espèces. Mais il y a également parce que les participants ramènent des guides, des ouvrages, parce que les participants discutent également avec les experts, parce que les étudiants sont aussi eux-mêmes des amateurs éclairés. Il y a une co-construction qui va résulter donc avec une discussion sur la détermination des espèces au cours des sorties et par la suite même, lorsque il y a une validation des données, certaines données seront remises en question par certains participants. Alors, la validation des données dans le dispositif InventarFacts se fait par une validation d'experts et donc des enseignants-chercheurs essentiellement, mais concrètement, il y a aussi remise en question des fois par les participants, puisqu'il y a un retour auprès des participants de cette validation des données. Et il peut y avoir des remises en question, on l'a pu l'observer lors de sorties, où certains participants qui avaient vu leurs données invalidées sur la détermination ont remis en question cette invalidation auprès de l'expert naturaliste. Sur la question de la légitimité, un peu la deuxième problématique. Et je vais terminer sur ça. Je voudrais citer un exemple qui amène justement cette question de la légitimité. Vu que le projet à l'Université de Montpellier était depuis 2011 en train de collecter des données sur le campus triolet de la Faculté des sciences, mais également sur d'autres campus, lorsqu'il y a eu l'opération campus, qui a été un regroupement des campus de l'Université Montpellier 1, Montpellier 2, à l'intérieur de l'Université de Montpellier, et donc la réhabilitation de certains bâtiments et la construction de nouveaux, il a fallu faire des études d'impact. Et lors de ces études d'impact, il y a eu donc des bureaux d'études qui se sont positionnés, notamment le bureau d'études Ecomed, qui a demandé les bases de données à l'association étudiante GNOME. Et effectivement, le savoir ainsi a été reconnu comme légitime, cette base de données a été reconnue comme légitime par Ecomed. Mais en fait, l'utilisation par Ecomed de cette base de données et l'étude d'impact qui a été rendue par la suite a été fortement contestée par l'association étudiante GNOME, qui a mené encore plus d'inventaire par la suite pour faire une contre-expertise véritablement avec donc la réalisation de nouveaux inventaires pour montrer qu'il y avait présence de certaines espèces qui avaient été invalidées par le bureau d'études Ecomed. Bon, ça n'a pas servi à grand-chose concrètement, puisque les bâtiments ont quand même été construits sur les zones où il y avait des espèces intéressantes. Mais il y a eu effectivement cette mobilisation citoyenne des participants au projet à ce moment-là, puisque malgré la reconnaissance, en tout cas le semblant de reconnaissance d'Ecomed sur la base de données qui avait été créée par les participants, ça a été remis en cause et donc il y a eu ce mouvement par la suite. Il y a peu de reconnaissance des établissements d'enseignement supérieur des bases de données naturalistes puisqu'elles ne sont pas forcément utilisées et notamment dans le cadre du plan vert donc lié à la loi Grenelle de 2009 sur les établissements d'enseignement supérieur et notamment, bon, alors c'est simplement un exemple, hein, bien sûr, mais c'est un exemple qu'on retrouve souvent dans les entretiens sur cette question de la légitimité et de la réutilisation. C'est que, effectivement, il y a cette problématique des associations étudiantes qui sont porteuses du projet, qui n'ont pas donné toutes les garanties de la fiabilité des données, même s'il y a des enseignants-chercheurs qui valident. Et malheureusement, comme est dit dans certains entretiens, le volet biodiversité du plan vert est complexe à mettre en place et souvent à l'état au niveau 1, c'est-à-dire à la prise de conscience et non pas à l'étape de réalisation d'actions concrètes. Et il y a même une remise en question des fois de la légitimité du dispositif InventarFacts par certains participants qui ont arrêté le projet en cours, puisqu'on a pu quand même nous entretenir avec deux personnes qui avaient arrêté le projet en cours, et notamment Enzo le remettait en question, puisque lui, il se sentait pas forcément légitime de contribuer à la base de données, en disant qu'il n'était pas forcément un spécialiste, et puis que finalement, à quoi ça sert si c'est pour produire des données fausses, selon lui. En fait, il y a une perte d'attrait dans ce projet à cause justement d'un sentiment d'illégitimité de certains participants qui demanderaient justement à être explorés un peu plus dans la suite de notre programme de recherche, justement la cause d'arrêt, du projet Inventaire Fac, puisqu'on s'est aperçu que de très nombreux campus arrêtaient également le projet Inventaire Fac, enfin, de très nombreux, certains campus arrêtaient le projet Inventaire Fac du fait de manque de participation des étudiants dans ce dispositif. Et je vais conclure, parce que je crois que j'ai été peut-être un petit peu trop long, mais en gros, là, à l'heure actuelle, le projet il est en cours de redéfinition, puisqu'il y a un changement au niveau de la gestion de ce projet-là. La légitimité du projet, elle est encore à construire, et on le voit au sein des établissements d'enseignement supérieur, et notamment au sein des plans verts, c'est très peu réutilisé les bases de données qui sont construites par les étudiants, donc sur le côté politique, même si les étudiants souvent se servent de ces bases de données-là pour contester les projets d'aménagement des espaces verts et pour également proposer des aménagements d'espaces verts. Je ne l'ai pas dit, mais effectivement, il y a également des projets qui sont proposés par les étudiants suite effectivement au dispositif Inventaire Fac sur l'aménagement des campus. Il y a véritablement donc un rôle de contre-expertise des associations, notamment quand il y a des projets de construction avec des études d'impact et avec des inventaires qui sont réalisés par des entreprises, des bureaux d'études typiques. Et enfin, je dirais que cela demande encore à être un peu plus exploré, mais il y a véritablement la construction d'un souci de préoccupation pour la biodiversité des participants, avec certains participants qui effectivement font plus attention à la biodiversité. Mais encore une fois, ça demande à être exploré et ça demande à être un peu complété, notamment dans nos entretiens. Voilà, si jamais vous voulez le support, je peux effectivement l'envoyer, le transmettre avec la liste bibliographique. Et je voudrais juste terminer en remerciant également mes collègues, Thibault Hérard, Antoine Adam et Mathieu Garcia, ainsi que l'ensemble des participants au dispositif Inventaire Fac. Et merci à vous également pour votre attention.
Merci beaucoup. Merci, on va prendre quelques questions dans la salle.
On peut peut-être lui remettre la caméra parce que...
Là, je ne vois plus personne.
Non, 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 à côté, voilà, voilà. Bonjour, donc je suis Nathalie Machon, je suis un des membres de Viginature au Muséum National d'Histoire Naturelle. Moi, je pilote plus les programmes Flore. Et je voulais dire que merci infiniment pour cet exposé et pour l'intérêt de votre travail. On a toujours ces problèmes de légitimité. Les observateurs se sentent pas légitimes, ils n'osent pas verser les données dans les bases de peur d'y mettre des données qui sont pas bonnes. Nous, on les rassure beaucoup en leur disant que d'abord, on sait que toutes les données sont pas fiables, mais que c'est des grandes tendances qui mettent en valeur la qualité de leurs données. Et plus il y a de participants, mieux ça vaut. Et on sait corriger ces... Quand on fait des statistiques, on ne prend pas pour argent comptant chaque donnée, mais on les utilise en grand nombre et c'est ce qui donne de l'intérêt à ces projets. Ça me fait penser aussi au projet de sciences participatives vis-à-vis des écoles, où évidemment, les enfants, quand ils participent, ils peuvent faire des erreurs, mais ce n'est pas très grave, on le sait. Moi, je me demandais, est-ce que ces données, elles sont ouvertes? C'est-à-dire, n'importe qui peut les regarder, les utiliser ou pas? Et est-ce qu'elles sont versées dans les bases de données nationales? Parce que je pense à l'INPN, au Muséum National d'Histoire Naturelle, qui récupère des données tout en sachant que leur validité n'est pas absolue. D'ailleurs, même les professionnels font des erreurs. Merci.
Merci beaucoup pour ce retour. Effectivement, elles sont versées dans les bases nationales, notamment par certains enseignants-chercheurs qui travaillent au sein, enfin, qui participent au dispositif Inventaire Fac. Également, les données sont publiques avec une licence Creative Commons et elles sont versées au sein de la plateforme Observado. Donc, c'est cette plateforme internationale dont je parlais, qui ressemble avec une interface moins jolie, pour le coup, mais innaturaliste. Effectivement, c'est là on peut avoir toutes les données avec également les noms des personnes. Alors, ce qui pose question également dans le projet Inventafac, et je vous disais qu'il est en cours de redéfinition, parce que il y a également des problématiques en termes de personnes qui ne veulent pas apparaître en fait sur ces bases de données-là, et notamment certains naturalistes, enfin certains étudiants naturalistes qui ont peur justement également du regard des autres, on va dire. Mais voilà. Mais sinon, effectivement, les données sont en accès avec une licence Creative Commons qui oblige à quand même citer le projet et les différents porteurs du projet. Mais sinon, après, pour ce qui est du national, tout est versé dans les bases de données nationales. Et c'était d'ailleurs un des objectifs principaux du projet InventaireFac dès ses débuts. C'était de contribuer justement à ce dispositif de collecte des données à l'échelle nationale.
Une autre question?
Merci, bonjour, je me lève aussi pour que vous voyez qui vous parle. Merci beaucoup pour cet exposé. Pardon, je m'appelle Charles-François Mathis, je suis historien. Et alors, j'ai en fait plus des remarques que des questions à faire. J'ai trouvé très intéressant ce que vous disiez sur la sensibilisation à la nature ordinaire qui est provoquée par votre projet, parce que c'est un point très important, je crois, justement, à souligner. Donc, ça me paraît vraiment très intéressant dans votre démarche. Je me demandais si vous connaissiez le projet Fortes, je crois que c'est comme ça qu'il faut dire, formé à la transition écologique et solidaire dans l'enseignement supérieur, qui est porté par le campus de la Transition, qui pourrait peut-être être un élément enfin, un lien supplémentaire, disons, et une manière supplémentaire de sensibiliser les universitaires et les universités à ces projets. Donc Fortes par le campus de la Transition. Donc il s'agit, hein, comme le nom l'indique, d'accompagner et de proposer une sensibilisation et des enseignements, un savoir commun en fait dans l'enseignement supérieur en lien avec les transitions écologiques et solidaires. Alors j'avais deux petites questions, l'une qui porte sur comment vous définissez les limites d'un campus en fait? Parce que j'étais à Bordeaux auparavant et il y a bien un campus, mais qui est très très inséré finalement dans d'autres espaces verts de la ville. Et est-ce que vraiment vous prenez tout bêtement un cadastre avec les limites très très strictes du campus, ou est-ce que vous étendez un petit peu? Enfin, comment est-ce que vous définissez ça? Et justement, alors je m'interrogeais justement sur l'impact de vos travaux sur les politiques des universités. Donc vous y avez en partie répondu. C'est un peu désolant d'ailleurs de voir qu'elles ne se saisissent pas de vos données. Et là, c'est une question très, très personnelle. Est-ce que il se passe des choses à Bordeaux, justement? Est-ce que vous avez des étudiants à Bordeaux ou des enseignants qui se saisissent de ça? Alors, je parle de l'université Bordeaux-Montaigne, pas l'université de Bordeaux. Merci beaucoup.
Merci, merci pour cette question. Et je regarderai effectivement, non, je ne connais pas du tout hein, ce programme de formation, donc je regardais, je l'ai noté. Pour vos questions, sur la première, en fait, c'est donc les campus, sur chaque campus, il y a des associations. Donc le dispositif InventaireFac est porté par l'association et par des enseignants-chercheurs référents. Donc ce qui permet la validation des données également sur chaque campus par des experts. Donc sur la limite des campus, c'est ces associations et ces enseignants-chercheurs qui nous fournissent, en fait, qui fournissent au niveau national la limite des campus en nous disant, ben voilà, il faudrait donc que sur Observado, on récolte les données qui soient disponibles, qui sont donc sur cette zone-là. Et on ne prend les données qui ne sont présentes que sur cette zone-là. Donc très souvent, c'est la limite un peu stricte des campus. Mais il faut savoir qu'il y a quand même des exceptions. Et je prends l'exemple l'université Claude Bernard à Lyon, où on a pris un espace vert qui était à côté parce qu'il était particulièrement intéressant puisque les étudiants allaient déjeuner là-bas. Donc voilà, il y a eu cet ajout-là. Mais en fait, la volonté est quand même d'inventorier la biodiversité sur les campus. Donc on essaie de se limiter justement quand même à la zone cadastrale, pour le coup, du campus. Sur votre deuxième question, c'est vrai que c'est un peu désolant sur les données qui ne sont pas réutilisées, même si quand on voit justement l'axe donc gestion environnementale et le sous-axe biodiversité à l'intérieur du plan vert, on voit que très peu d'universités en fait dépassent le niveau 1 de prise de conscience. Et donc, bon, on voit que c'est complexe en tout cas à faire changer sur ce côté-là. Et donc, sur la question de Bordeaux, malheureusement, je ne pourrais pas répondre parce que je ne sais pas justement l'état actuel du projet. Est-ce que je sais qu'ils avaient eu des contacts. Alors, je ne sais plus sur quel campus à Bordeaux, enfin sur quelle université, pardon. Mais je sais qu'ils avaient eu des contacts. Alors après, est-ce que c'est allé beaucoup plus loin? Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire concrètement. Je sais quel campus participe beaucoup, mais par contre, je ne sais pas si Bordeaux là, il est en cours d'intégration du dispositif inventaire FAC. Ou si c'est resté à l'état d'échange de mails et puis sans plus.
Je vais voir si je peux les sensibiliser à votre action.
Ah bah, n'hésitez pas, en tout cas, parlez-leur d'Inventaire FAC, on a notre site internet, donc on est bien sûr ouvert à d'autres intégrations de campus, au contraire.
Merci beaucoup. Encore une question?
Merci, juste une petite question pour compléter la question des limites des campus. Je voudrais savoir si vous avez une caractérisation des campus, certains étant peut-être plus urbains, d'autres un peu plus, comme le campus d'Orsay, par exemple. On est quand même en pleine forêt, sous le plateau du Molon. Est-ce que du coup, ça joue parmi les facultés, enfin les universités qui sont plus actives? Est-ce que c'est celles qui sont un peu en dehors des villes ou dans des zones un peu boisées ou pas? Est-ce que vous pouvez... est-ce que vous voyez des choses qui seraient liées au campus lui-même, entre le campus très minéral et le campus plus boisé? Est-ce que ça influence l'activité, la participation? Voilà.
Merci pour cette question et qui est pour le coup qui nous intéresse beaucoup. Pour le moment, le projet de recherche que l'on a mené, il se contentait du campus Triolet de l'Université de Montpellier. Donc, effectivement, on n'a pas fait de comparaison entre les campus ce qu'on aimerait dans la suite du projet, c'est effectivement faire cette comparaison-là et d'aller sur d'autres campus pour vérifier la participation, pour vérifier la motivation des participants. Là, pour le moment, on a une typologie générale des participants à l'échelle nationale, mais typiquement, on n'a pas, défini plein de variables qui pourraient être intéressantes, comme de corréler le taux de participation avec justement la présence d'un couvert, d'espace vert plus important, par exemple, ou d'avoir la présence d'une forêt ou d'un milieu, au contraire, plus minéral. Ça, pour le moment, on ne l'a pas fait, donc je ne pourrais pas vous répondre précisément sur cette question. Mais par contre, c'est quelque chose qu'on a relevé comme étant la suite logique de notre projet, avec cette extension à d'autres campus participants et avec des enquêtes qui seront réalisées également sur les autres campus, avec la même enquête que l'on a fait sur le campus Triolet. Je ne l'ai pas dit, mais cette enquête-là, pour nous, c'était une enquête déjà exploratoire pour définir certains éléments intéressants, une méthodologie pour après la répliquer sur d'autres campus et pouvoir derrière comparer différentes variables.
D'accord, merci beaucoup.